bonsoir et bienvenue. Je suis très nombreux. Je n'ai pas peur, vous au fond qui ne voyez strictement rien. D'une part, le diaporama, je le mettrai en ligne quelque part dans le courant de l'année prochaine, je pense. Non, mais c'est pour réserver la primeur à vous qui êtes là. Je ne vais pas le distribuer au reste du monde. Mais le plus important, c'est ce que je vais raconter. Ça me sert beaucoup d'aide mémoire pour moi, en fait. Donc, je suis là pour vous parler de procrastination et de motivation. Alors, je m'appelle Lionel Dabouste, j'écris, je traduis et j'ai publié environ, professionnellement, une trentaine de nouvelles et à peu près 8 bouquins, j'ai publié le 9e en mars. Je ne vous raconte pas ça pour vous dire à quel point je suis trop fort. Je vous raconte ça parce que je voudrais faire un truc avec vous que je n'ai jamais fait, c'est que je vais commencer par vous lire une petite histoire qui est que je vais vous proposer un extrait de mon journal d'écriture du 20 février, l'entrée du 20 février de cette année, si elle veut bien apparaître. Donc, alors que je travaillais sur le bouquin qui sort en mars prochain, qui s'appelle Le verrou du fleuve. Et donc, dans cette entrée du 20 février, où j'avais commencé à bosser sur le bouquin, voilà ce que je me dis. Au moment d'attaquer le verrou du fleuve, je suis pile pas dans le bon état d'esprit. Je ne sais pas quoi faire au-delà de la première scène. Le volume de ce que je dois ou devrais faire me terrifie, me paralyse, parce que je me dis que je dois m'activer, produire, etc. Or, j'ai établi que c'est pile ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se sentir forcé, obligé de produire et de produire bien. Il faut lâcher prise, se lancer de l'histoire à les personnages, laisser s'envahir et raconter ce qu'on voit. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que si vous êtes là, a priori, vous avez peut-être des problèmes de motivation, de procrastination sur votre écriture, et je veux juste vous dire que vous n'êtes pas seul, que c'est normal. Et que si je vous dis que j'ai publié 30 nouvelles et 8, bientôt 9 bouquins, c'est que malgré tout, à un moment il s'est passé quelque chose, mais que même alors que je suis en train de travailler sur le 9e, on va frayer cette année, le problème n'a pas mieux. Donc c'est normal. Mais il y a quand même des moyens de s'en sortir un petit peu. Alors, juste une petite histoire, je sais que je dois parler de ça devant vous depuis quelques mois, et j'étais en août dernier à la Convention mondiale de science-fiction de Helsinki. Et il y avait justement une table ronde entre auteurs sur la question de la motivation. Je me dis là, puisque je vais aller parler à Nantes de ça, je vais aller voir ce que ces gens-là racontent. Et ils n'ont pas du tout parlé de méthode ni rien, enfin ils en ont parlé un petit peu, mais surtout le truc le plus important, c'est qu'il y a cet homme-là qui s'appelle Sébastien Castel, qui est un auteur de fantasy américain, qui a en fait fait énormément de bien, lui-même admettant qu'il procrastinait tout le temps. Et notamment, il parle du test de Stephen King. Il parle du bouquin Écriture de Stephen King, qui en général est cité comme référence, et Le Castel dit, à mon avis, c'est le bouquin le plus déprimant sur l'écriture qui existe. Parce que dedans, il y a le test de Stephen King. Et donc, Le Castel raconte l'histoire du fils de Stephen King, qui vient voir Stephen King, et lui dit, papa, je veux faire du saxophone. Est-ce que tu veux bien payer un saxophone et des cours de saxophone? Et le père, donc Stephen King, dit, oui, bien sûr, pas de problème. Et genre 3 ou 4 ans plus tard, le fils revient et dit, écoute, papa, je voudrais parler de mon truc. En fait, je suis pas sûr que j'aime le saxophone, est-ce que ça t'embête pas que j'arrête? Et Stephen King dit, écoute, il n'y a pas de problème. Et Stephen King raconte dans l'écriture que, en fait, il est soulagé. Parce qu'il se rend compte que, en fait, son fils, il bossait pas tellement le saxophone, il n'avait pas vraiment le feu sacré, et qu'en fait, il allait vraiment bosser son saxophone que quand il avait un cours ou un examen. Et King dit, ben voilà, il n'avait pas le feu sacré, et l'écriture, ça devrait être comme ça. Et De Castel dit, et moi, je rate le test de Stephen King. Et tout le monde dans la salle fait, mais oui, et nous tous, on rate le test de Stephen King. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas forcément, au moment de devoir écrire, vous vous dites « Non, mais en fait, j'ai une Xbox, / Netflix, / Facebook », que vous n'êtes pas fait pour ça nécessairement. Sébastien Castel, il a sorti plein de bouquins. Moi-même, j'ai des problèmes avec Netflix, Facebook, tous ces trucs-là. Et j'ai, par un espèce de mécanisme, à un moment, j'ai quand même réussi à sortir des bouquins, et puis globalement, ça se passe bien, parce que je continue à en sortir. Donc c'est que globalement, mes éditeurs m'ont pas encore viré. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Et qu'on est quasiment tous dans le même cas. Donc, culpabilisez pas avec ça. Vraiment. Je sais que c'est pas facile. Après, il y a peut-être des manières, et c'est ce dont j'ai essayé de vous parler aujourd'hui, parce que je bosse beaucoup sur les questions de technique d'écriture, sur les questions techniques de productivité, il y a peut-être des manières pour essayer peut-être de travailler mieux, c'est-à-dire moins dans la douleur. Autant que faire se peut. Alors déjà, en fait, pourquoi on procrastine? Et c'est quoi la motivation. En dehors du feu sacré, parce que Stephen King, effectivement, s'il pouvait ne pas dormir, il ne s'arrêterait jamais. Mais pourquoi on procrastine finalement? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, on va commencer par parler de l'anti-procrastination, c'est-à-dire l'état de grâce qu'on aimerait tous atteindre régulièrement. C'est l'état dit de flow, qui est en rapport avec la créativité. Donc, l'état de flow, il a été formalisé par un chercheur dont le nom est là et que je ne risquerai pas à vous lire. Il s'appelle vraiment comme ça. Il y a une fiche Wikipédia sur lui et sur l'état de flow. En fait, l'état de flow, c'est quand on est, comme disent aussi les Américains, ils disent in the zone. C'est-à-dire, on oublie le temps, on oublie de manger, etc. Et on est au taquet, et d'un seul, et il se passe des trucs, et c'est merveilleux. Quand on écrit, on a des moments comme ça. Mais c'est pas tout à fait vraiment le moment le plus fréquent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'on a une concentration maximale sur ce qu'on est en train de faire, qui est sur la durée. On oublie de manger, on oublie de nourrir le chat, etc. Vos conjoints viennent taper à la porte en disant ça va, t'es là-bas. Et en fait, ce qui caractérise l'état de flow, c'est un équilibre fécond entre le feedback, c'est-à-dire on reçoit un retour positif sur ce qu'on est en train de faire, on se fait plaisir, et sur le défi que ça provoque. Si vous faites un truc trop facile, ça vous ennuie. Si vous faites un truc trop difficile, c'est ennuyant. Le flow est vraiment jouer sur cet équilibre entre le défi et le feedback. Et aussi entre la difficulté de la tâche et la nouveauté qu'elle représente. En fait, le flow, l'état de créativité maximale, Kouroche Dini, qui est psychologue, le définit l'état de créativité avec, c'est un jeu, c'est l'état de jeu enfantin, l'émerveillement, qui est canalisé par le travail, c'est-à-dire par la rigueur de l'esprit adulte, en un sens. Donc ça, c'est l'état idéal. Donc pourquoi ça n'arrive pas aussi souvent? Alors pourquoi on procrastine? Alors, auteur Tim Pitchill qui identifie 7 causes à la procrastination dans une tâche. Et ces tâches, c'est une tâche ennuyeuse. Du coup, vous n'avez pas envie de la faire. La deuxième, c'est une tâche qui vous frustre. Donc, du coup, vous n'avez pas envie de la faire non plus. Une tâche qui est difficile, on peut renacler forcément dans l'obstacle, c'est humain. La procrastination, c'est humain, en fait. Peut-être un peu plus grave, ça manque de sens personnel. Vous faites ce truc-là, mais vous ne savez pas pourquoi. D'ailleurs, c'est une des causes au travail du burn-out, par exemple. Quand ce que vous êtes en train de faire manque de sens, et ça vous a l'impression que ça vous vide de votre substance et de votre âme, forcément, évidemment, vous procrastinez, vous n'avez pas envie d'aller. Elle manque de récompense intrinsèque. Vous n'avez pas de retour sur ce que vous êtes en train de faire, et vous faites le truc, mais ça peut d'ailleurs déborder sur le manque de sens personnel. On se dit, mais j'y vais, j'avance, mais je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que ça fait. Et aussi le manque de définition. Je dois faire un truc, mais en fait, finalement, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc, bah, je ne vais pas le faire, parce que c'est pour moi, c'est anxiogène. Et manque de structure, ce qui revient avec le manque de définition. Le manque de structure, c'est l'étape d'après. C'est, ok, j'ai peut-être défini ce que je dois faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire. Donc ça, c'est à peu près les 7 grandes causes de la procrastination. Et je pense que vous pouvez cerner qu'il y en a déjà dans toute pratique artistique qui sont un petit peu intrinsèques à l'affaire, quand même. L'écriture et toute pratique artistique a, par nature, et c'est pour ça que c'est normal, des composantes de la procrastination, les causes de procrastination sont intrinsèques à toute pratique créative. Donc, Kouroche Dini, je cite aussi en référence, dans ses bouquins, et notamment Creative Flow et Omnifocus, il parle de projets. Il définit 2 types de projets. Il définit un projet à échelle claire et des projets à échelle floue, clear, scale et unclear, scale. Ce qu'il entend par là, c'est qu'il y a des projets pour lesquels vous savez exactement à quoi le résultat final va correspondre. Votre déclaration d'impôt, bon, bah ça est chiant, mais à un moment il y aura les chiffres dans la case, et puis elle sera envoyée, et ce sera fini. Ça va être un peu fausse, mais. Et ça, c'est un projet à échelle claire. Vous savez ce qu'il faut faire, il faut compiler les documents, il faut prendre la calculette, il faut prendre son courage à demain, au moment, c'est fini. Faire le ménage chez soi, c'est un projet à échelle claire. Ce qui est important, c'est derrière, c'est qu'il y a le projet à échelle floue. Le projet à échelle floue, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, tout projet, il définit les projets de nature créative comme étant des projets à échelle floue. Un projet à échelle floue, vous avez une vague idée du résultat, mais le résultat final est flou par nature et vous ne savez pas nécessairement les étapes par lesquelles arriver pour y arriver. Et peut-être que même si vous avez une espèce de vague idée, il y a de fortes chances que le résultat et le but changent en cours de route. c'est un projet artistique par nature est à échelle floue. Parce qu'il va changer ses règles en cours de route. Vous allez avoir une meilleure idée. Vous allez finir peut-être pas du tout l'endroit où vous avez prévu. Et ça peut être anxiogène, justement. Et ça, on va retrouver les causes de la procrastination. Il y a une composante qui est inévitable, c'est que ça va être ambigu. Un projet artistique, un projet créatif, par nature, il est ambigu. Parce que si vous saviez ce que vous alliez faire entièrement, bah, il n'y aurait pas de notion de créativité derrière. L'ambiguïté est une composante fondamentale de la créativité, quoi qu'il arrive. D'autres composantes qui sont difficiles à résoudre, mais qui peut-être éventuellement peuvent être un peu plus travaillées, c'est la frustration et la difficulté. Ça va de pair avec le fait de créer quelque chose, parce que vous ne savez pas ce que vous allez nécessairement créer. Donc là, ce n'est pas évident. Il va falloir s'y mettre, ça va être difficile. Ça peut être frustrant, on peut prendre des fausses routes, on peut écrire des centaines de milliers de signes pour rien, on va se rendre compte après que ce n'était pas la bonne route. C'est frustrant et c'est difficile. C'est pas nécessairement une fatalité. Si on écrit 50 pages qui servent à rien, au moins on sait qu'elles ne servaient pas. On a écrit ces pages qui étaient inutiles, on sait que c'était pas la bonne route, il fallait essayer. Mais ça fait partie du processus créatif, toujours. Et des composantes qui sont pour moi éminemment raisonnables, l'ennui. Si vous vous ennuyez, faites autre chose. Si vous écrivez vous ennuyez, écrivez autre chose. Changez le truc. Ou alors, trouvez une manière de rendre intéressant. Manque de sens personnel, si votre écriture a un sens personnel, pareil, faites autre chose, ou écrivez autre chose. Manque de récompense, ça c'est, ça peut être assez fréquent, parce que l'écriture est quelque chose qui se fait au long cours. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un regard sur son travail quand on est dedans. Ça n'a rien à voir avec par exemple composer de la musique, où vous pouvez écouter ce que vous avez fait assez vite, surtout avec des ordinateurs. Comme l'écriture est inscrite dans la durée nécessairement, c'est une consommation comme une création qui est linéaire, qui s'inscrit dans le temps, bah c'est difficile d'avoir un retour là-dessus. Et manque de structure, bah ça peut être que je dois écrire, j'ai une scène, mais je ne sais pas ce que je vais faire dedans. Bah donc à ce moment-là, il faut réfléchir, on s'en met dedans. Donc, vous êtes normal. Alors, je croyais qu'il y a plein de petits chats. C'est pour un peu se faire du bien. Donc, une part de ces difficultés, puisqu'un projet créatif est un projet à échelle floue, elle sera toujours présente. Donc, si c'est votre cas, si vous procrastinez, que vous avez des problèmes de motivation, ne vous dites pas que, contrairement à ce que dit King, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça, parce que si vous étiez fait pour ça, vous auriez forcément le feu sacré et ça marcherait bien tout le temps. Je connais personnellement, et je commence à connaître un certain nombre depuis le temps, je connais aucun auteur qui est comme ça à 100% tout le temps. Ils sont plus l'exception que la règle. Donc presque tous les écrivains rament, mais tous ne vous l'avouons pas. La création est œuvre de patience et de persévérance. C'est difficile, c'est normal, ça fait partie du truc. On est dans une société où on vit un petit peu avec des gratifications instantanées, ça ne fonctionne pas comme ça. Une pratique, c'est Nietzsche qui disait « Tout ce qui est important vient en surmontant quelque chose ». La créativité, bah aussi, et la création et l'écriture vont vous apprendre des trucs sur vous, c'est aussi pour ça que c'est difficile, parfois, et ça prend du temps. L'écriture, justement, s'inscrivant encore plus dans la durée, et peut-être encore plus sujette, justement, à ces difficultés de patience et de persévérance. Donc, cela dit, est-ce qu'on peut se faciliter un peu la vie, quand même? Parce que, j'ai beau dire que bon, c'est normal, etc., est-ce qu'il y a moyen d'essayer d'utiliser, donc moi, c'est le truc sur lequel je réfléchis pas mal, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser les méthodes ou les avancées en neurosciences, en organisation, etc., pour peut-être se faciliter un peu la vie, ou du moins adresser les composantes résolvables, qui sont relatives à la procrastination, histoire de juste devoir affronter les choses qui sont inhérentes. Alors, moi, mon mantra, c'est que apprendre à écrire, c'est apprendre à se connaître. Toute la créativité, c'est quelque chose d'éminemment personnel. On peut éventuellement apprendre, et peut-être prendre des raccourcis, en découvrant des choses de théorie, sur l'écriture, sur la narration, sur n'importe quelle pratique artistique. Un peintre, il va peut-être un peu plus vite pour peindre des bâtiments s'il a des notions de base d'architecture et de perspective. Les mêmes choses existent en écriture. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment soi-même on fonctionne. Si vous avez besoin d'écrire la nuit, écrivez la nuit. Si vous êtes productif, la nuit. C'est, voilà. Mais il découle surtout de ça que on peut quand même... Alors, je vais vous en proposer, mais ce que j'ai à peu près, je pense, essayé à peu près tout. À peu près, sauf les stupéfiants, parce que ça ne marche pas. C'est son ami. Ah, si, bien sûr. Donc, je vous propose des mécanismes et des pistes consacrés par l'expérience, pas seulement la mienne, mais celle d'autres, et surtout en allant aller taper. Il y a des écrans qui vont, ça change. Donc, il n'y a pas de petit chat parce que j'ai un peu d'ADN de petit chat. Donc, essayer de vous proposer des mécanismes et des pistes qui ne sont pas sacrées par l'expérience, pas seulement la mienne, mais celles que j'ai pu voir en discutant avec mes camarades et collègues. Un des trucs le plus important, je pense, déjà, c'est prendre de la hauteur. On a fréquemment, surtout en écriture, quand on est tranché et qu'on n'arrive pas à avancer. De manière générale, le plus grand service qu'on puisse se rendre, à mon avis, c'est prendre de la hauteur sur sa pratique artistique. Rachel Aron a fait un bouquin intéressant où elle explique comment, qui s'appelle From 2K to 10K a Day, je crois. Où elle, c'est un très petit bouquin qui, où elle parle comment elle a multiplié, triplé, quintuplé son compte de mots par jour, son quota de mots par jour. Elle dit, pour écrire, elle, à mon avis, c'est intéressant, elle a elle propose trois dimensions. Elle dit, j'écris pas tant que j'ai pas ça. Et en faisant ça, je me suis vachement facilité la tâche et j'écris beaucoup plus vite. Elle dit, avant d'écrire une scène, je cherche à connaître ce que je vais dire. Quel est le propos de ma scène? Qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai une baston, eh ben je scénarise la baston. Si j'ai une discussion difficile, eh ben je fais l'inventaire des arguments de part et d'autre pour voir un petit peu ce qui va se dire. Ce qui n'empêche pas de prendre une tangente en cours d'écriture, mais au moins ça donne un début. Du ton. Au moins une page d'écriture un peu devant soi, ou en tout cas avoir l'espace mental de pouvoir s'y plonger. Et l'enthousiasme. Et ça, c'est un truc auquel je reviendrai, mais à mon avis, c'est une des composantes les plus importantes. Si on n'a déjà pas envie ou qu'on n'est pas un peu hypé par ce qu'on a envie de faire, il y a probablement peu de chances que le lecteur le soit. Alors, comment on peut essayer de, notamment cette dimension d'enthousiasme qui est un peu évanescente, comment on peut essayer d'essayer de la cerner, ou en tout cas d'arriver à une, c'est très à la mode de parler de pleine conscience, mais d'essayer d'arriver à une conscience un peu plus poussée de son propre processus, de manière à mieux se connaître, pour apprendre à mieux bosser, et pour simplement pas être victime de ses propres difficultés. Le premier truc qu'on peut proposer, que je vois assez fréquemment, c'est consigner ses progrès. On regarde, ce que pour Rachel Aron entre autres, mais à la fin de la, on se fait une feuille Excel, ou n'importe quoi, et on regarde, j'ai, à telle heure de la journée, j'écris tant de signes. Autour de la journée, j'écris tant de signes. On regarde, et sur le temps, on commence à consigner un peu, on essaie de consigner des données pour voir quelles sont les erreurs, quelles je suis plus productif, pourquoi ça marche bien, pourquoi ça marche mal. Je mets un petit bémol sur cette idée, parce que ça implique que tous les signes sont égaux. Ça implique que quoi qu'on écrive, c'est forcément intéressant et bien, c'est pas forcément le cas. Mais c'est, ça peut être une bonne, une première idée pour en tout cas se rendre compte quand est-ce qu'on est productif. Il vaut mieux écrire de la merde que rien écrire du tout. Moi, ce que j'ai tendance à recommander plus fortement, et qui est recommandé plus fortement de manière générale par la communauté des auteurs, c'est de tenir un journal d'écriture. À la fin de chaque session, prendre un instant, 10 minutes, un quart d'heure, pour se faire un journal et se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que je me suis fait plaisir? Pourquoi je me suis pas fait plaisir? Si je me suis fait plaisir, pourquoi? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a pas marché ?» Et au fur et à mesure, ça peut paraître un exercice vain dans les premières semaines, mais quand il y a des moments qui sont bons, et que vous ramez, et que vous revenez en arrière, et que vous dites « Bon, ok, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'avais compris la dernière fois que j'ai pas compris cette fois ?» Ça peut être instructif. Donc, c'est évidemment ce genre d'exercice à de valeur que sur la durée. Mais c'est, à mon avis, c'est intéressant parce qu'en plus, ça pousse à avoir un espèce de recul sur sa propre pratique, encore une fois, pour cesser d'en être victime. Et de se dire, aujourd'hui j'ai compris un machin, ben, je le consigne, ce serait ballot de devoir le perdre. Quand j'ai, je prends juste un truc de mon expérience, mais quand j'ai attaqué le premier tome de la série sur laquelle je travaille, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas écrit de bouquin de longue durée, et j'ai eu l'impression de devoir réapprendre des tas de trucs. Ben là, à partir de là, j'ai commencé à tenir un journal d'écriture, parce que j'en ai marre de réapprendre des trucs. Alors, je mets quand même en garde sur la connaissance du temps. Robidoff, dans ses conseils d'écriture, elle met en avant, elle dit « Vous n'aurez jamais plus de temps que maintenant. » C'est une technique de procrastination, de se dire « Non, mais je ne vais pas écrire, parce que tu comprends, j'ai pas 4 heures devant moi et un chalet à la montagne. » Ouais, mais à un moment, il faut commencer par quelque part. Quoi. Donc, je reviendrai sur la dimension temporelle, mais je dis tout de suite, ne vous dites pas « Non, mais pour écrire, oui, ben voilà, je comprends, je n'écris pas, parce que forcément, je n'ai pas 8 heures devant moi. » Avec les vies qu'on mène, à moins d'avoir le luxe de pouvoir écrire à plein temps, on n'a jamais plus de temps que maintenant. Donc le temps, il faut le faire. Ou alors, il faut se dire, Robinhood prend cet exemple-là, si tous les matins, en allant dans votre bus, vous écrivez une phrase, bah, à la fin de la semaine, vous aurez un paragraphe. À la fin de 3 mois, vous aurez une nouvelle. C'est déjà plus que si vous attendiez en vous disant, j'aurai 8 heures. Parce que vous forcez de constater que vous ne serez peut-être jamais. Alors, un des trucs les plus prégnants sur la procrastination, c'est la barrière d'entrée. C'est de se dire « Oh, il faut que je m'y mette. Oh, je veux pas, j'ai peur. » Alors, est-ce qu'on peut éviter de se faire un peu peur? Est-ce qu'on peut essayer d'abaisser la barrière d'entrée pour se rappeler? Parce que, juste un mot sur De Castel, dont je parlais tout à l'heure, il parle beaucoup, il a raison, il parlait beaucoup. Je lui rends hommage, hein, parce que c'était lui qui en a beaucoup parlé. Il rendait hommage, il parlait de joie et d'enthousiasme. L'écriture peut être difficile parce qu'on ne sait pas où on va aller, parce que c'est frustrant, parce que c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de techniques à apprendre. Ça, c'est une difficulté qui est normale, c'est la difficulté d'exécution. La difficulté de se dire ah, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie, c'est probablement qu'il y a un problème. S'il n'y a pas un moment, ah, ça va être dur, si c'est dur, c'est normal. Si on n'a pas envie, il y a un souci. Bon. Et comment faire pour que ce soit un peu moins dur et donc abaisser la barrière d'entrée? Alors, un premier truc, c'est que la créativité, ça nécessite de l'espace mental. Ça nécessite de la bande passante dans sa tête. Si vous imaginez une conduite, une canalisation qui fait passer de l'eau, si vous avez votre esprit qui est occupé par il faut que je nourrisse le chat, il faut que j'aille acheter le chien, il faut que je passe chercher le pain, il faut que je remplisse ma déclaration d'impôt, etc., etc. Puis il y a mille et mille choses qui vous accaparent l'esprit. Elles vont venir s'inviter au pire moment, c'est-à-dire pendant que vous essayez d'avoir l'esprit libre et de la bande passante pour créer des choses. Donc, il y a des travaux en neurosciences qui montrent que l'esprit peut tenir à peu près conscient à un moment donné trois trucs. À partir du quatrième, le stress apparaît. Donc, heureusement, il y a aujourd'hui, hein, surtout avec tous les stimulus externes, les stimuli externes qu'on a, il y a des méthodes, sous le terme vague de méthodes de productivité, qui existent pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans et essayer de pas, surtout notamment de pas, le truc classique, hein, je pense que ça nous est tous arrivé. On est en ville, on passe devant une boulangerie, on rentre chez soi, on se dit « Merde, je vais pas... » On se dit « C'est quand même ballot qu'on se rappelle de se racheter le pain alors qu'on n'est pas devant la boulangerie. » Donc, l'idée des méthodes de productivité, c'est d'essayer au maximum de réduire la friction, qui est un terme qui est à la mode, c'est-à-dire de réduire la friction dans les tâches et dans le quotidien pour arriver justement à produire le plus possible. Et l'idée n'est pas, en fait, mauvais terme, de ne pas produire le plus possible, c'est de libérer l'esprit au maximum. David Allen, donc, qui est l'auteur de la méthode Getting Things Done, qui a un énorme, monstrueux succès aux États-Unis et qui apparaît de plus en plus en France, il dit « L'esprit est fait pour avoir des idées, pas pour les conserver. » L'esprit est très mauvais pour se rappeler des trucs. On oublie tous les anniversaires, de faire une course, etc. Si on les note pas, c'est pour ça qu'on fait des listes. Je veux dire, ça ne nous reviendrait pas à l'idée de se dire « Là, je vais faire les courses, mais je n'ai pas de liste. » C'est le meilleur moyen, on sait tous, de revenir avec 4 caisses de Haribo et 3 packs de bière, et absolument pas les légumes, on est parti chercher.
Ça, c'est du
vécu. Ça, c'est du vécu, tout à fait. Donc, les méthodes de productivité, leur but, justement, c'est de libérer un maximum de bande passante cognitive. Et en fait, très rapidement, l'idée de cette bande passante cognitive, c'est d'essayer de consigner les choses à faire dans un système externe, dans un cerveau extérieur, qui peut prendre une forme extrêmement pointue et technologique, comme un carnet avec un crayon. Ça a l'air de rien, mais si on fait l'exercice tous de se dire j'ai plein de trucs en tête, j'ai trop de trucs, etc. Le premier exercice qu'on fait, c'est je prends un papier, un crayon, je fais une liste, et bien je me sens mieux. Parce que c'est sous mes yeux, et j'ai déchargé ma tête. Donc, j'ai dit la plus là-dessus, mais le père ou la mère de toutes les méthodes, c'est Getting Things Done de David Allen, qui est traduit sous le titre horrible de s'organiser pour réussir. Alors, une des questions, quand je regardais c'est un peu l'inventaire à la Prévert, mais je regarde aussi qui avait été dit et qui avait été promis dans le programme, de manière à ce que vous ne vous sentiez pas floué. Un des trucs qui est assez fréquent, c'est qu'on parle de réutilisation de la création. Est-ce qu'on a besoin d'achat Angora et d'une tasse de thé coûteuse pour réussir à produire un bon bouquin? Alors, moi, j'ai tendance à dire oui et non. Oui, parce qu'il est important pour toute tâche de créer le contexte. Créer le contexte, ça veut dire j'ai besoin d'espace où je puisse faire ce que je suis censé faire, c'est-à-dire créer. J'ai besoin de temps pour le faire. Et ces deux choses-là doivent être sacralisées. Et le premier truc à faire, alors évidemment, j'ai besoin de temps pour le faire et j'ai besoin de sacraliser et j'ai besoin de dire à mes proches, non mais vous comprenez, là je bosse et là j'écris, il ne faut pas me déranger, sauf si quelqu'un est en train de mourir et encore. Le premier truc à faire, c'est de sacraliser pour soi. Un des problèmes de la motivation de la procrastination, c'est qu'on ne se sent pas légitime à le faire. Je vous rassure, même avec plein de bouquins publiés, on ne se sent pas plus légitime. C'est profondément, c'est le complexe de l'imposteur. Le premier truc à faire, c'est de sacraliser pour soi. Oui, ce que je fais est important parce que j'ai envie de le faire, virgule, bordel de merde.
Bonne exclamation.
Donc c'est important. Donc pour moi-même, oui, oui, vous avez le droit de prendre du temps et de l'espace pour écrire parce que c'est important pour vous. Et c'est quelque part le seul truc qui est important là-dedans. Est-ce que vous avez publié, est-ce que vous avez vendu des milliers de bouquins et tout ça, on s'en fout, de toute façon, vous n'avez aucune prise là-dessus. Donc, le truc le plus important, c'est faire le meilleur bouquin possible. Et faire le meilleur bouquin possible, ça commence en se donnant le droit. Et je vous le donne. Merci. Ça fait plaisir. un petit truc de rituel qui me paraît, parce qu'un des trucs qui était dans une des causes de la procrastination, il y a un des problèmes, c'est le manque de récompense immédiate. L'écriture, c'est long et compliqué, ça s'inscrit dans la durée. Un des trucs compliqués, c'est je me remets devant la page, et qu'est-ce que je vais dire maintenant ? Le matin, notamment vers 9h du matin, ça peut être un peu violent. Donc, un truc tout bête, mais il ne faut pas hésiter à s'imprégner de ce qu'on a fait la veille, de se relire, de se remettre dans l'élan, et ça permet justement de continuer en se disant bah, je reprends mon élan, et en même temps, ça permet simplement de s'imprégner, de se faire un peu plaisir, peut-être. Alors peut-être des fois on se dit, ouais, c'est pas très bon, c'est pas grave. Mais il y a toujours un truc dont on peut être un peu content, on retrouve des personnages, on se dit, bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Donc, pas hésiter à relire un peu ce qui précède. Je crois que c'est Christopher Priest qui fait ça beaucoup. Donc bon, si c'est bon, Christopher Priest, ça peut être bon pour vous aussi. Par contre, un truc sur lequel j'aurais tendance à mettre en garde, c'est justement ce que j'appelle les rituels annexes. C'est j'ai besoin d'un chat angora, j'ai besoin d'un disque de chant de baleine, j'ai besoin d'une tasse de thé Earl Grey venant de telle boutique, parce que sinon, tu comprends pas, je peux pas créer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas se faire un peu de thé, etc. Ça permet de s'occuper les mains en pensant à autre chose. Moi, j'ai tendance à dire attention aux rituels annexes, parce que ça peut être une forme élaborée de procrastination, pour se dire. Non, mais tu comprends pas, j'ai pas mon service à thé préféré, je peux pas écrire. Après, chacun fonctionne comme il veut. Comme je disais tout à l'heure, écrire, c'est apprendre à se connaître. Donc, gare à ça. Ne soyez pas victime de vos. De la même façon, essayez de pas être victime de sa procrastination, mais l'apprivoiser, essayez de la comprendre pour arriver à la dépasser. Pas être victime de ses rituels non plus, pour la même raison. Alors. Un des trucs, oui, il y a un rapport avec le fait qu'il y a des tomates. Un des trucs les plus basiques dans le cadre d'une tâche vaste, comme écrire un bouquin, comme écrire une nouvelle, comme écrire un haïku, c'est que c'est un projet donc à échelle floue. Et une des manières les plus simples et les plus immédiates de simplifier un problème complexe, c'est de le découper en petits problèmes plus simples. Ça peut être compliqué dans le cadre d'un bouquin parce que c'est tellement un ensemble de plein de choses, il faut créer des personnages, il faut créer un décor, il faut écrire, il faut avancer, que ça peut parfois être un peu nébuleux. Mais le simple fait, encore une fois dans la même idée de faire une liste, de se dire il faut que je crée tel personnage, il faut que je réponde à telle question sur mon monde, il faut que j'écris le chapitre 15, il faut que je reprenne le chapitre 2 parce que vraiment je l'aime pas du tout et franchement je sens que je vais pas pouvoir avancer donc je l'ai pas rendu mieux, et bien le simple fait d'avoir ça, encore une fois ça libère l'esprit. Et tout ce qui permet de découper un problème en tâches plus unitaires est bon à prendre. Eckhart Tolle, dans une conférence avec le Dalai Lama et plusieurs spécialistes de l'éducation, il y a eu cette phrase que je trouvais vachement intéressante, qui disait « Être créatif, c'est pas trouver des réponses. Être créatif, c'est trouver des questions. » Parce que quand on a une question, c'est vachement plus facile de trouver la réponse qui va avec. On n'a plus qu'un problème qui a été posé et qui est clair. Mais quand on crée, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a même pas les réponses, on ne sait même pas à quoi on va répondre. Donc, commencer à réfléchir en se disant « Ok, quelles sont mes questions ?» Ben, je sens que là, il faut que je crée un peu plus mon monde parce que je sens que, je sais pas, j'ai n'importe quoi, j'ai besoin d'écrire un tournoi et en fait, je me rends compte que je connais rien aux armes médiévales. Bon, ben, je vais commencer par m'enseigner là-dessus. Je vais pas commencer à écrire le truc en me disant « L'inspiration va me frapper. » À un moment, ça va se passer. Non, ça sera en général pas bien. Et en général, on va râler. Donc, là, mais vous voyez que le truc dans mon exemple débile, là, la première truc, c'est la question, c'est, ben, je sais pas ce que c'est que le tournoi, en fait, et peut-être que j'ose pas aborder, peut-être que inconsciemment, j'ose pas me poser cette question, c'est-à-dire que je fais des recherches, ça me gonfle, peu importe vos réponses en question, oui, d'ailleurs, pour apporter vos réponses aux questions, tout à fait. Mais là, dans cet exemple idiot, on a vu quelle était la question. J'arrive pas avec un asset parce que j'ai pas assez de doc, parce que je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, la question devient plus, il faut que j'écrive cette scène, c'est dur, ça devient, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont mes recherches? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Et ça, c'est une réponse, c'est une question à laquelle il est beaucoup plus facile de répondre. Donc c'est ça, c'est le coup de, éventuellement, découper en tâches unitaires. Le simple fait, tout simple, de se faire, bah, j'ai 10 chapitres à écrire et je fais 10 chapitres là, chapitre 2, chapitre 3, etc. Et rayer quand c'est fait, ça fait un bien fou. On peut éventuellement, ça c'est aussi un truc, se fixer des quotas d'écriture par jour. J'ai longtemps fait ça. Et c'est vrai que ça permet de s'imposer une discipline. Ça permet de s'aider à sacraliser l'espace en se disant, eh ben, aujourd'hui j'ai pas fait mon quota, donc j'irai pas faire la fête avec les copains. Donc tant pis, je reste chez moi et j'écris, mais si je et demain, si j'écris mieux, eh ben, j'aurai le droit d'aller faire la fête avec les copains. Le truc qui est un petit peu risqué avec ça, c'est qu'on peut entrer dans deux choses. On peut entrer dans un motif de culpabilisation en se disant qu'on y arrive. Voilà, si jamais on rame, on peut rater son quota régulièrement et finalement le remède devient pire que le mal parce qu'on se dit non, je suis nul, j'arrive pas à faire mon quota. L'autre truc qui est, encore une fois, que ça veut dire que tous les signes sont égaux. Toutes les pages sont bonnes, et que, alors, je suis pas contre cette idée-là, je mets juste ces caveats là. Si on veut fixer des quotas pour essayer de se motiver et voir les choses progresser, j'aurais tendance à dire de sévèrement toujours sous-estimer le quota. Parce que de se fixer une cible facile à atteindre, en se disant, je dis n'importe quoi, si j'écris 20 lignes par jour, eh ben j'ai rempli ma journée. Et tout ce que je fais de plus, c'est du bonus. Mais ça a l'air de rien. Mais psychologiquement, ça peut aider beaucoup. Moi, j'ai tendance à dire davantage, plutôt que de se fixer des quotas, se fixer du vrai temps de travail. C'est-à-dire d'essayer de ne pas trop s'astreindre à une productivité draconienne, voire stacanoïste, en se disant, il faut que j'écrive 50 pages toutes les demi-heures. Non, ça ne marchera pas. Par contre, se dire, eh ben, tous les jours, tous les week-ends, tous les matins, je me fixe, voilà, toutes les matinées du week-end, je prends la matinée pour moi, je prends 4 heures. Et je prends 4 heures de vrai boulot, hein. Je prends pas 4 heures pour aller sur Facebook. Mais si j'ai travaillé sincèrement sur mon bouquin pendant 4 heures, parfois je peux avoir fait des pages, parfois je peux en avoir fait moins, mais l'essentiel c'est de travailler sévèrement et assidûment sur le boulot. Parce que dans son temps on a besoin de réfléchir, dans son temps on arrive à produire, c'est pas quelque chose de nécessairement très mécanique. Voilà une méthode que j'aime beaucoup, d'où les tomates, c'est la méthode Pomodoro. Qui est hérité d'un étudiant qui n'arrivait pas du tout à bosser en fait. Il était bon, il aimait ce qu'il faisait. Le truc c'est que il avait toujours Netflix, Facebook, Xbox, caresser le chat, etc. Et donc Francesco Cirillo, qui a donc inventé la méthode Pomodoro, il s'est dit bon, je peux bien être capable de me concentrer 25 minutes à fond sur le truc. Je passe un deal avec moi-même. Je me concentre 25 minutes dessus. Pendant 5 minutes, je fais ce que je veux. Et face à une tâche par nature amorphe et par nature anxiogène, comme créer une scène, écrire, ça peut faire vachement bien. Parce qu'on ne se dit pas, ce qu'on a tendance à se dire inconsciemment quand on procrastine, dans les 25 premières minutes, il faut que j'écrive une décalogie entière. On se dit juste, allez, là, je bosse 25 minutes, mais bien. Mais que 25 minutes. Et c'est vachement plus facile quand même de passer ce contrat-là avec soi. Ce que je veux juste dire sur les méthodes Pomodoro, c'est que il ne faut pas considérer la sonnerie des 25 minutes comme « Ah, c'est fini !» Si vous êtes en train de faire un truc et que vous êtes bien parti, vous n'arrêtez pas. Mais par contre, vous pouvez vous dire « Bon, quand je sens la prochaine fois que j'ai envie de glander, j'ai le droit. J'ai mes 5 minutes. » Ça, je trouve que ça marche bien. Ce qui est important, en tout cas, dans projet créatif, c'est d'acquérir la hauteur et le rythme. Et dans l'apprentissage de l'écriture, en général, mais de toute discipline, il y a deux dimensions. D'abord, il y a le faire, il y a l'aspect pratique des choses, il y a s'entraîner, et puis il y a le côté apprentissage, qui est le côté théorique, apprendre des trucs. Alors, évidemment, ces deux dimensions se nourrissent l'un l'autre. juste quelques pistes pour essayer d'apprendre ces deux trucs, pour essayer de maîtriser ces deux trucs-là. Ce que je veux dire déjà sur l'écriture, c'est que l'écriture, c'est probablement un peu plus, c'est probablement une des formes d'art les plus compliquées à acquérir, parce que c'est difficile de séparer leurs dimensions. Ce que j'entends par là, c'est que si vous voulez apprendre à dessiner, vous pouvez faire des croquis d'êtres humains jusqu'à l'écrire-monde. Vous pouvez faire des croquis de bâtiments jusqu'à l'écrire-monde, pour un moment, on va faire des bâtiments et des êtres humains. Sur l'écriture, pour acquérir un maîtrise de la narration, c'est plus compliqué, parce qu'il faut savoir faire du rythme, gérer son style, gérer la longueur des phrases, décrire, faire du dialogue, présenter des personnages, présenter un univers, parce qu'on est tous dans un festival de science-fiction, en plus. Donc, c'est compliqué à démêler. Et encore une fois, c'est normal. Mais ça peut être un peu frustrant pour y arriver. Alors, mon avis, la première règle, c'est qu'il faut écrire. Je disais tout à l'heure, tous les signes ne sont pas égaux, mais le plus important, c'est rappelez-vous, hein, deux intellectuels assis ont toujours moins l'impression qu'ils marchent. Donc écrivez. Même si vous soyez intellectuel ou con, écrivez. C'est la première règle de Robert Heinlein. C'est le truc le plus important, c'est la pratique. Et écrivez, écrire, écrire tout le temps, au maximum, autant que possible, parce que c'est de là, de l'usage. L'écriture, c'est beaucoup un muscle, en fait. Plus on la pratique, et moins c'est douloureux. Moins on la pratique et plus on a peur d'y retourner, et c'est là qu'on procrastine. N'hésitez pas alors à vous poser des exercices et des défis. On est en novembre, il y a l'anneau Rimo, il y a des tas d'exercices et des défis qui sont possibles. Des exercices d'écriture, on en trouve tout le tour du ventre sur internet, et ça peut être un truc intéressant quand on n'a pas nécessairement de projet qu'on a envie sur lequel on a envie de travailler dans l'instant. Un autre truc très important, et ça c'est la deuxième règle de Robert Heinlein, c'est tu dois finir ce que tu as commencé. C'est probablement plus difficile que la première. C'est très important pour deux raisons. D'une part parce que ça fait du bien, et d'autre part parce que j'en reparlerai tout à l'heure, mais quelque part l'écriture commence à la correction. Finir un premier geste est difficile, mais ça n'est limite que la moitié du boulot. Et il y a toute une partie qui en général est ignorée, qui est la correction. Et corriger un texte, avoir du recul là-dessus, même si après il ne faut pas se corriger jusqu'à l'écœurement, il faut continuer à écrire des trucs, mais c'est une autre partie de la technique qui en général est extrêmement sous-estimée. Comment on peut apprendre? Alors je vais juste dire un mot sur l'apprentissage de la théorie de la création de l'écriture. En France, on a beaucoup d'analyse littéraire, hein, on est un pays qui est assez connu pour ça. Les outils d'analyse littéraire ne servent, quel que soit le respect que j'ai pour les outils d'analyse, la technique et l'analyse littéraire, les outils d'analyse littéraire ne servent à peu près à rien pour l'écriture. Pour une raison très simple, c'est que l'analyse littéraire, telle qu'on la connaît à l'université, qui est extrêmement érudite, à laquelle je rends hommage, mais elle travaille sur un outil qui est par essence fini, publié, corrigé, etc. Nous, on est de l'autre côté de la barrière. On est au moment où le projet est chez le flou, on ne sait pas où on va. Donc, ça ne va pas nous aider. Alors, ce que je pourrais recommander, c'est d'abord essayer d'avoir une lecture la plus active possible. Ah, ça m'a plu. Ah, pourquoi? Diversifier aussi. On est tous lecteurs de SF, on est probablement tous lecteurs de l'imaginaire, des degrés divers. N'hésitez pas à lire ailleurs, ou à vous renseigner ailleurs. Il y a des... les romans classiques sont devenus des classiques, quelle que soit l'affection ou pas qu'on peut avoir pour eux, c'est qu'il y a des raisons. Donc, le roman classique, par exemple, sont en général fortement connus pour leur finesse des caractères, leur traitement psychologique. C'est un truc qu'on peut aller voir ailleurs. Une boîte à outils d'écrivain, ça se construit à partir de partout. Et il y a un autre intérêt, c'est que c'est pour travailler son sens esthétique. Pour arriver à juger ce qu'on a fait et voir si ça nous plaît, c'est important de savoir ce qu'on aime, tout bêtement. Et de se dire ce qu'on n'aime pas. Et de se dire, ok, bon, ça, j'ai lu ce bouquin, ça m'a gonflé, je ne vais jamais voir ça chez moi. Et ça permet tout simplement d'avoir du recul pour se dire, et arriver au plus vite possible, quand on corrige, à lire son truc et à se dire, ça va, ça va pas, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Au lieu d'avoir le nez dedans et de se dire aussi, quand on peut avoir, c'est mon livre, c'est la plus belle chose du monde. On va avoir des livres de technique, il y en a plein, ils sont très bons. Alors j'ai un blog très fourni, j'en parlerai juste un mot après. Les livres de technique, il y en a un qui est très très bon en français, que je recommande souvent, qui est le bouquin d'Elisabeth Bonarbourg. Il y en a beaucoup en anglais, il y en a beaucoup moins en langue française, mais on a la chance d'en avoir un très bon, qui est Comment écrire des histoires. Et je me permets humblement de... Parce qu'il y a beaucoup de ces problématiques-là et de ces sujets que j'ai étudiés en détail sur mon blog. Donc je vous propose un moment, ça sera la seule moment où j'en parlerai, mais c'est parce que je prolonge ces concepts-là. Et on a un podcast avec Mélanie Fazier et Laurent Genefort, qui ont ses livres, qui parlent de techniques d'écriture, qui s'appelle Procrastination. Procrastiner utile sur son écriture, du moins on l'espère. Si je dois vous donner deux habitudes que j'aimerais vous proposer d'essayer et qui ont porté leurs fruits, que ce soit pour moi ou pour tous les gens à qui j'ai essayé de rejoindre, à utiliser, dont les retours ont été extrêmement positifs. Le premier truc, on a tendance à dire qu'il faut écrire tous les jours. Oui, d'accord, mais quoi ? Et en général, quand on dit « il faut écrire tous les jours », le truc que ça oublie de dire, c'est que oui, écrire tous les jours, c'est bien, mais surtout, toucher le projet sur lequel on travaille tous les jours. Et ça peut être, moi, ce que je vous propose d'essayer pendant, mettons, 2 semaines, c'est tous les jours, astreignez-vous à écrire au minimum une phrase. Quelle que soit la journée, vous rentrez chez vous à 2h du matin, moi j'ai torché, si vous menez ce genre de vie, je ne juge pas, vous écrivez une phrase quand même, peut-être un peu mauvaise, mais au moins, vous aurez touché votre projet. L'intérêt de faire ça, c'est d'abaisser la barrière d'entrée. Une des trucs qui arrive fréquemment dans la procrastination, c'est que on a peur de ce qu'on va trouver dedans, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et parce qu'on se dit, là, il va falloir remettre la machine en marche pour arriver à écrire, et on se fixe des objectifs invraisemblables. Toucher le projet tous les jours, c'est piquer à Courroldini. C'est pour ça qu'une image de piano, c'est son prof de piano, lui avait dit touche les touches tous les jours, touche le clavier tous les jours. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'on a la démarche de sacraliser sa démarche en se disant c'est suffisamment important pour moi pour que j'y aille tous les jours. Je n'ai pas d'obligation de résultat, juste l'obligation de moyens, de créer mon texte et de trouver la place pour le faire. Si je veux en écrire 15, très bien, pas de problème. Mais le fait de l'écrire tous les jours, de toucher le projet tous les jours, a cet avantage. L'autre avantage, c'est que ça abaisse la barrière d'entrée. De fil en aiguille, de jour en jour, on n'a plus peur de ce qu'on va trouver dans le projet, puisqu'on sait en quelle année. Et ça permet de garder le lien mental avec ça et de garder un certain élan de création. La deuxième habitude que j'aimerais vous dire, c'est de soyez enthousiaste. Si vous n'êtes pas enthousiaste pour ce que vous allez faire, encore une fois, je différencie le fait que ce soit difficile du fait de l'enthousiasme. Ça peut être dur d'écrire ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez écrire une scène qui est super compliquée et vous ramez et c'est dur. Mais vous savez qu'elle est bonne et vous savez que c'est comme ça qu'il faut la faire. Peut-être que vous allez la rater, mais c'est pas grave. Ou alors, c'est dur parce que ça vous rappelle des trucs de votre vie personnelle et vous êtes en train de pleurer de douleur dans votre corps sur le clavier. Mais c'est pas grave, ça a du sens. Donc essayez de chercher ce sens-là. Dans le bouquin d'Elisabeth von Harburg, elle dit le corps sec. Je pense que voilà, si vous écrivez, vous êtes tous à un moment où vous dites ah ouais, putain, ça c'est cool. Ben c'est ça qu'il faut chercher, c'est cette espèce d'impulsion. Après, vous allez servir, vous allez la servir, peu importe, c'est pas grave. Ça n'est plus que de la technique, quelque part. Ça n'est plus que de l'expérience. Mais ce qui est important, c'est l'enthousiasme. Et si vous n'avez pas l'enthousiasme en se disant, en un mot commençant, ça fait triple. Je parle comme ça, mais parce que c'est vraiment quelque chose de viscéral. Donc, cherchez cette chose viscérale-là, et ça peut être dur, mais essayez d'avoir ce sens-là dans vos projets. Autant que possible. Et l'autre question qui peut être intéressante à se poser, c'est pourquoi j'écris. Et moi, j'aimerais vous dire juste de faire attention au miroir aux alouettes. Si vous écrivez, à mon avis, l'attitude la plus durable dans l'écriture, c'est parce que vous avez envie de le faire. Si vous voulez le faire pour l'argent et la renommée, vous pouvez être trader en bitcoin. Hein, ça. La publication n'est pas une fin en soi. Il y a d'excellents bouquins qui sont auto-publiés, il y a d'excellents bouquins qui ont été, je veux dire, à la recherche du temps perdu, ça a été auto-publié à la base quand même. Donc, ne cherchez pas le saut de l'approbation. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément s'auto-publier, qu'il faut savoir être patient aussi. Mais ne voyez pas la publication comme une fin en soi, comme un saut de validité. Je sais que c'est un peu facile de la part pour vous dire ça, mais ce que ça peut être long d'avoir sa première publication, donc si vous accrochez l'espoir et la reconnaissance et la joie que vous avez à l'écriture à cette marque de validation, vous allez faire plus de mal que de bien. Faites-le parce que vous avez envie de le faire. Brandon Sanderson, grand auteur de fantasy, il a été 8 ans veilleur de nuit, il a écrit 13 bouquins d'un million de 100 000 signes avant d'en avoir un qui est publié. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait fait la même chose dans la salle, personne n'a le droit de gueuler. Et le côté « je veux être un écrivain », c'est... Voilà, chacun place, voilà, si vous, j'ai pas de critique concernant ces trucs-là, si vous voulez écrire pour l'argent, bah sachez que vous n'allez peut-être pas forcément écrire de la SF, c'est peut-être pas forcément la bonne filière, quoi. Mais essayez de savoir, et pour chercher cette joie-là, moi la meilleure injonction à le donner par Neil Gaiman, make good art, créer du bel art. Quand votre vie part les couilles, créez du bénard. Quand ça va pas, créez du bénard. Quand ça va bien, créez du bénard. Je pense que ça doit être là, le but et le plaisir, et de le faire, comme dit De Castel sur son site, de le faire sans peur. Faites le bouquin que vous avez envie de faire. Mettez-y tout le mettez les licornes roses à paillettes si vous êtes très fleur bleue, ça on s'en fout. Faites-vous plaisir. Si vous le faites pour vous faire plaisir. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, vous pouvez vous faire du mal en le faisant. Mais quelque part, si vous avez cet enthousiasme et si ça a ce sens-là, bah, au moins vous aurez le plaisir d'avoir fait un truc qui vous a fait plaisir, mais surtout ça abaisse la barrière. Très rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, un mot sur le regard des autres. Alors, je parlais du feedback, le fait d'avoir ce retour-là. Alors, c'est des questions qui, moi, m'arrivent fréquemment, c'est... un chat. le truc, c'est est-ce que je dois faire lire à des gens ? C'est un métier solitaire. Donc, est-ce que... Alors, ça dépend de votre constitution. Personnellement, je suis un associé, un introverti et un ours. Donc, je ne montre jamais rien à personne. En tout cas, il faut à peu près me l'extirper de mes doigts crochus avant que je n'en sois minimum content. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui aiment avoir le retour des autres. À vous de voir où vous vous trouvez. Je vous donne juste quelques pistes. Alors déjà, à travers le Nano Brimo et à travers les World Wars, donc avec ces guerres pour essayer d'écrire le plus possible, on peut construire une communauté et se lancer mutuellement des défis. Je sais que, voilà, il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, ce mode d'entraide, ce mode de rivalité, bon enfant, où en gros, tout le monde arrive à écrire davantage et ça marche bien. À vous de voir si c'est votre truc. On peut aussi également s'entourer de ses semblables. Je sais qu'il y a, pas mal de camarades qui se retrouvent chez l'un, chez l'autre, pour écrire, simplement pour se motiver mutuellement et se sentir un peu moins seul. À vous de voir hein, votre rapport à la solitude. Donc il peut y avoir des groupes d'écriture, réels ou virtuels. Hein, on peut mentionner par exemple des forums comme Cocyclix. Il y a des ateliers où on peut écrire, où on peut justement, éventuellement aussi sous la houlette d'un meneur d'atelier qu'on espère bienveillant, essayer de s'améliorer et travailler ensemble sur une problématique. Un mot sur ce plan-là, faites juste, il y a énormément d'ateliers d'écriture qui ne sont pas forcément gérés par des gens qui peuvent avoir quelque chose de très constructif à proposer. Ça dépend. Donc allez voir, faites attention, ne prenez pas pour acquis qu'il y a forcément des écritures, il y a un intervenant qui soumet un grand CV, ça ne veut pas forcément dire que c'est de qualité. Vous voyez aussi la valeur de la communauté. Il y a quand même des ateliers qui sont quand même un peu plus des trucs pour occuper des gens oisifs que véritablement pour arriver à écrire de façon un peu plus professionnelle. Donc, soyez juste attentifs et attentives à selon ces questions. Alors, ma question, est-ce que c'est intéressant de faire lire en cours de route ? Est-ce que c'est intéressant, j'ai fini mon truc, j'ai fini un chapitre, je demande l'avis de mes proches pour savoir si c'est bien ou pas. Alors, évidemment, ça donne une gratification, c'est qu'on a tout de suite un feedback dessus. C'est très gratifiant, ça peut faire plaisir. À vous de voir comment on fonctionne avec ça. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai les doigts crochus et jamais on m'attrape des trucs en cours de route. Parce que moi, ça me paralyse personnellement. Donc à vous de voir hein, comment vous êtes. Moi, ça me paralyse parce que je me dis, oh là là, mon Dieu, mais ça veut dire que tout ce qu'ils vont lire va être gravé dans le marbre, je pourrais plus jamais rien changer. Surtout moi, le truc particulier auquel je veux vous mettre en garde, c'est que je trouve que ça peut aussi dénoter un manque de confiance et d'assurance. J'écris un truc, je suis pas sûr de moi. Au fond de moi, peut-être je sais en fait que ça va pas. Et donc je vais le faire lire à quelqu'un pour avoir une validation. Et quand cette personne-là va revenir et va valider, je vais lui dire non mais t'as pas de goût en fait, tu sais bien que ça va pas. Ou alors, quand cette personne-là va me dire ah, ça va pas, je vais faire salaud, je voulais que tu dises que c'est bien. Donc attention à ce mécanisme-là qui peut être piégeux. Ça peut être dur de rester dans sa bulle et de continuer à écrire, mais je pense que ça peut être salutaire. Mais à vous de voir hein, comment vous marchez. Un mot sur choisir un bon bêta-lecteur, quelqu'un qui va vous relire. Comment on choisit quelqu'un qui va vous relire bien? Un bon bêta-lecteur, c'est quelqu'un qui va être critique. C'est quelqu'un qui va vous faire des retours, qui ne va pas vous dire « Mon fils, c'est trop bien ». Ça ne nous sert pas, ça nous fait du bien. C'est important d'avoir quelqu'un dans son groupe de bêta-lecteurs qui est comme ça, mais il ne faut pas qu'il soit tous comme ça, parce que ça ne sert à rien. Mais qui est quelqu'un qui est critique, c'est-à-dire qui va vous dire non, mais là ça ne va pas, etc., mais qui est bienveillant, c'est-à-dire qui, en gros, ne va pas vous péter le moral, d'une, et qui en plus est intéressé par ce que vous faites, et sincèrement intéressé, il veut essayer de vous aider. Donc, si vous écrivez du Space Hop de Hard Science, faites pas lire ça à quelqu'un qui n'aime que la romance, ça ne va pas marcher. Quoi. Ou alors vous êtes super fort, mais. Quelqu'un qui sait donc expliquer aussi quand ça va ou quand ça va pas. Parce qu'il n'y a rien de plus démoralisant que de faire « Je sais pas trop aimer. Pourquoi ?»« Je sais pas.
Ouais, d'accord.
Donc, quelqu'un qui peut vous dire, non, ça, ça m'a pas plu parce que tu comprends, j'ai pas trop compris. Ou alors, ce personnage, je trouve antipathique. Ou alors, qui sait vous dire, ça, c'était bien parce que j'ai aimé, parce que j'aime tel truc, tel truc. C'est ça qui est intéressant. On veut du retour constructif. Connaissez aussi la personne à qui vous avez affaire. J'ai un bêta lecteur qui me suit depuis des années, qui est un ami proche. Il n'aime pas quand ça gêne. Donc, quand j'écris une scène un peu romantique et tout, etc., et qu'il m'a fait ce jeu, je fais pas forcément confiance, je sais qu'il n'aime pas quand ça gêne. Par contre, si j'écris une, romantique, une scène romantique et qu'il m'a dit que ça marche bien, là, je suis encore plus satisfait. Donc, mais voilà, sachez connaître les limites et les goûts des gens pour faire gaffe alors, à ce forme de retour. Éventuellement, croiser les avis. Hein. Enfin, éventuellement, en avoir 3 ou 5, c'est pas mal. Mais un truc sur les corrections, notamment si vous êtes inscrit sur des groupes de relecture type Procyclus. Faites attention à l'instinct. J'ai fait l'éditorial, j'ai vu des gens à qui on pouvait pas changer de virgule. Parce que tu comprends, c'est de l'art. Ouais, mais bon, à un moment, tu dois être accessible à tes gens, etc. Tu veux pas qu'on change un peu des trucs. Voilà, j'essaie de rentrer dans ton projet, on essaie de travailler ensemble. Donc, les auteurs à qui on peut rien changer, c'est difficile d'avancer et d'apprendre. Par contre, Olida, elle a une formule intéressante, elle part de la montagne sur laquelle on est prêt à mourir. Il y a des moments, et ça peut arriver, qu'on peut demander des corrections qui vont aller tellement loin que ça dénature totalement ça dénature totalement le projet. À un moment, la montagne sur laquelle on est prêt à mourir, c'est de se dire, si je fais cette correction-là de profondeur et importance, ça n'est plus mon projet. La montagne sur laquelle je suis prêt à mourir, c'est je préfère ne pas faire cette correction et que le truc ne sorte pas. Donc, à vous de voir où vous mettez votre curseur. J'ai tendance à dire, et surtout quand on commence et qu'on est un petit peu à fleur de peau, et qu'on a pas mal de choses forcément à apprendre hein, toute sa vie, mais bon, d'essayer de plutôt errer du côté de l'humilité. Mais il y a un moment, c'est comme le corset, il y a un moment où si jamais ça vous tord à l'intérieur, ne faites pas de mal non plus. Stephen King, que j'ai un peu bâché tout à l'heure, mais il s'en fout, il ment beaucoup plus chez moi. Il dit un truc extrêmement intéressant sur les bêta-lecteurs. Il dit quand 15 personnes pointent un problème différent dans un récit, ils ont peut-être un peu tous tort. Quand 15 personnes pointent un problème sur un récit, ils ont certainement tous raison. Prenez en compte les sensibilités, prenez en compte votre projet. Et sachez écouter votre instinct. Surtout un truc qui est très important, c'est que fréquemment, quand on vous pointe un problème, ça ne veut pas forcément dire que c'est un problème avec l'histoire. Ça veut peut-être simplement dire que vous ne l'avez pas fait comme il fallait. Un problème de structure peut être un problème d'exécution. Ça peut être votre lecteur, il n'a pas compris. Donc, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il fallait juste mieux le faire, pas qu'il ne fallait pas faire ça. Et sachez vous laisser du temps. Sachez live and let die. Sachez mûrir et laisser mûrir. Donc voilà, sachez vous laisser du temps.
Oui,
ben, j'ose tout, c'est un certain problème. Voilà, je vois que le temps passe, mais on a commencé un peu plus tard, donc je vais aller rapidement. Donc un truc très très important qui a été répété par tous les auteurs américains à la WorldCon ou encore cet été, writing is rewriting. L'écriture, c'est réécrire. Votre premier jet, il n'a pas besoin d'être parfait. Au contraire, surtout ne vous corsetez pas. Terry Pratchett disait, le premier jet, il ne sert qu'à s'expliquer l'histoire. Donc, écrivez votre premier jet, peu importe qu'il soit le plus bancal du monde. Comme disait Cartol tout à l'heure, la création, c'est poser des questions. Avec votre premier jet, vous posez des questions. Une fois que vous aurez votre premier jet fini, il sera temps de le regarder. Éventuellement, de le réécrire entièrement. Bon, personne ne faisait ça. Parce que vous allez poser des questions. Maintenant que vous avez les questions devant vous, vous avez peut-être les problèmes, c'est beaucoup plus facile de chercher les réponses. Mais donc, essayez de... Je finis rapidement. Essayez de couper au maximum l'éditeur interne qui vous dit « Non, c'est bien, bien ce que tu fais. » Si vous sentez que c'est juste, écrivez, avancez. Comme dit De Castel, écrivez sans peur, autant que possible. La correction, c'est à peu près 50% de la qualité finale d'un manuscrit. Donc, si vous vous dites qu'il faut que ce soit parfait au premier jet, c'est mettre la charrue avant les deux. Allez-y, lâchez-vous. La bonne nouvelle, c'est que c'est une technique, la correction. Beaucoup plus que l'écriture. L'écriture, ça reste toujours un peu ineffable. Je vous ai montré voilà. J'étais en train d'écrire mon 9e bouquin, et visiblement, j'ai l'impression de toujours en plus en savoir qu'au début. Quoi. Le bon truc, c'est que la correction, c'est une technique et c'est beaucoup plus facile à maîtriser, à apprendre au fur et à mesure. On apprend ce recul-là. Je passe rapidement sur cette histoire de premier jet, parce que je l'ai déjà dit. Voilà, tu es l'éditeur interne, et juste un truc, une astuce donnée par Robinum, elle, quand vous écrivez votre premier jet et que vous vous dites « Ah ouais, mais non, mais là, il y a un truc, j'aurais dû introduire un truc avant. » Ou alors, « J'aurais dû introduire ce personnage-là, ou alors il y a un truc qui ne va pas. » L'astuce qu'elle donne, elle, c'est de se faire un fichier à côté qu'elle appelle le Go Back File, le fichier de retour, en fait. Et en fait, de continuer à écrire le premier jet comme si vous l'aviez écrit comme ça. Comme ça, vous pouvez continuer à avancer. Et dans le Go Back File, vous dites « Bon, alors là, je fais comme si... » éventuellement, et ça permet de continuer à avancer, toujours pour avancer, et essayer de finir ce premier, ce foutu premier jeu le plus vite possible. C'est beaucoup plus facile de retravailler quelque chose. Voilà, et pour finir, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, comme un projet créatif c'est forcément un projet d'échelle floue, il y a forcément une part de difficulté, c'est normal. Une bonne manière, c'est de l'accepter simplement, vous dites pas « je suis nul parce que je rame ». On est tous pareils, encore une fois. Les causes de la procrastination, elles sont inhérentes à toute pratique créative, puisque l'objet qu'on crée se définit et définit ses propres règles au fur et à mesure qu'on avance et qu'on déchiffre. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça qu'on a du mal à s'y mettre. C'est pour ça que c'est difficile. Donc, n'ayez crainte. Avec un petit chat. Voilà, donc, pour tout ça, cherchez votre solution. Et à mon avis, la solution, elle se trouve pour vous, un confluence entre la persistance, parce que c'est du boulot, hein, c'est le bouquin, ça s'écrit pas tout seul, il faut s'y mettre tous les jours, ça peut être très très long. Mais aussi de lâcher prise. Soyez gentil avec vous-même. Et un peu d'expérience. Mais ça fait pas tout. Parce que tout le monde rame. Pierre Bordage, monsieur Pierre Bordage, disait dans une table ronde sur des anthologies il y a un an, il y a deux, trois ans, je crois, il disait que c'est la panique pour lui quand on lui demandait parfois d'écrire une nouvelle parce qu'il se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ?» John Gardner, dans Elements of Fiction, il dit que l'écriture, c'est de la rumination. Donc ça s'inscrit dans la durée. L'essentiel, c'est d'y revenir tous les jours. À mon humble avis, l'essentiel, justement, c'est, comme disait, c'est de toucher le piano tous les jours. Et c'est voilà, c'est, on n'écrit pas une décalogie en une journée, une heure, donc il faut s'y mettre petit à petit, essayer de le faire avec bienveillance envers soi-même autant que possible. Rappelez-vous que vous êtes là pour vous faire plaisir, même si c'est dur, quand c'est dur, c'est normal, mais voilà, il ne faut pas non plus se faire du mal à non plus finir, mais voilà, essayez de... Donc, basé sur ces deux choses-là, la connaissance de vous-même, essayez de vous explorer, essayez de comprendre ce qui vous convient, à la fois de ce que vous voulez écrire, mais aussi la manière dont vous voulez travailler. Et essayez de vous faire plaisir au-delà de la dureté, de la difficulté inhérente à la pratique. Je vous remercie.